êtes encore très enthousiaste pour parler de cette aventure. On va parler maintenant d'une aventure filmique avec Laetitia Thura. Vous êtes réalisatrice et avec Hélène Cruzilla, vous avez souhaité filmer les disparitions des migrants à la frontière de l'Europe. Essayer de comprendre ce qui se passe quand les gens ne sont plus là, les traces qu'ils laissent derrière eux, les questionnements, les interrogations dans l'environnement qui peuvent émerger. Et donc vous avez finalement été dans un questionnement qui était très peu abordé à l'époque par les sciences humaines. Et c'est peut-être vous qui avez... à travers ce film, poser la question d'un type de ressource qui justement n'est pas constitué, n'est pas accessible pour une recherche immédiate, mais qu'il faut travailler, constituer à travers des récits en images.
Bonjour. Je suis pas sûre que ce soit le film qui soit déterminant dans tout ça. Ce qui est sûr, c'est que pour revenir à ce film donc, qui sort pour la première fois en 2014, on le commence en 2007. Et on ne commence pas du tout avec l'idée de la disparition, mais sur parce que tout simplement on n'avait pas conscience de ce qui était en train de se passer par rapport à la question de la disparition. Et donc, a posteriori, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs à ce moment donné là à faire des recherches, quels que soient nos terrains, nos supports de travail, qui étaient parallèles, mais on ne travaillait pas ensemble. C'est-à-dire que la question de la mort était connue, évidemment. Nous, on allait là-bas d'abord en travaillant sur de la mise à l'écart, et c'est parce que les récits qui nous arrivent des exilés, il y a une récurrence sur le fait que presque tous ont rencontré à un moment donné la mort dans leur parcours de migration et qui ne sont pas en mesure de dire ce qu'il a été fait des corps, qu'on comprend qu'il y a un phénomène de la disparition qui se passe dans ce cadre d'externalisation du contrôle des frontières. Et donc ça, c'est du coup quelque chose qui arrive du terrain, des récits qu'on entend. Et nous, là, pour nous, se pose le problème de comment on appréhende, comment on comprend, comment on regarde ce phénomène-là. Et donc, forcément, on cherche. Et à ce moment-là, on était tous en train de défricher ce qui est en train de se passer, parce que c'était quand même relativement, en tout cas en Afrique du Nord, ça date déjà de plusieurs années, mais il n'y avait pas encore de travaux, en tout cas nous on les a pas trouvés à ce moment-là constitués. Et donc pour comprendre comment la disparition se faisait à plusieurs niveaux, c'est ce travail qu'il fallait faire dans les pratiques, comprendre comment les pratiques des migrants eux-mêmes entre eux pour leur propre survie qui adoptaient des stratégies de camouflage pouvait aussi générer une certaine forme de disparition, donc de ce niveau-là jusqu'à la violence politique d'État, en passant par tout le système d'occultation médiatique. Mais donc, c'est cette déconstruction, en fait, qui est d'abord venue des récits-là, et qui ensuite, dans un second temps, il a fallu traduire dans un film. Et donc là, notre travail, il n'est pas de la même... évidemment, c'est un travail de film et d'un travail sensible. Et donc, au départ, pendant le recueil des récits, donc concrètement, on demandait à des personnes de nous raconter la manière dont elles avaient soit échappé à... Elles étaient des survivants, soit dont elles-mêmes avaient été les témoins de la mort d'un de leurs compagnons. Et quand il s'agissait d'exactions de la part d'autorités, qu'elles soient marocaines ou espagnoles, puisqu'on a tourné au Maroc et à Melilla essentiellement, on se plaçait dans la perspective de « il faut qu'il soit cru, et pour être cru, il faut qu'on ait un maximum de détails ». Et donc, presque dans un espèce de donner des preuves sur l'emplacement, de pouvoir se représenter où était la personne qui parle au moment où il parle et de ce qu'il décrivait, qu'est-ce qu'il pouvait voir, etc. Donc on avait la crainte que eux et nous, par là même, allions être... Enfin, que ce n'était pas possible, puisque on était confrontés, quand on racontait ce qu'on disait, ce qu'on recueillait à l'époque, en France, il y avait vraiment une réelle défiance, quoi. Donc, on travaillait avec cette chose-là. Et en fait, tous, cette chose-là qui était vraiment très similaire à une logique de preuve, en fait, on l'a abandonné au montage. Parce que là, on se retrouve juste avec une matière filmique et que la matière filmique, c'est pas seulement les faits, c'est aussi, la preuve, elle est aussi, pas seulement dans les dires, mais dans tout ce que porte le corps. À l'écran, on voit des personnes qui parlent de manière filmée, de manière très frontale et assez neutre. C'est pas du tout une parole remise en situation sur place. Mais il y a les silences, il y a l'affect, et c'est des corps blessés aussi qui parlent. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, mais non, mais on les croit. Il n'y a pas besoin de faire tout ce travail. Tout ce qu'on avait fait auparavant, on l'a complètement abandonné, en fait. Et alors, juste pour aussi rajouter quelque chose sur les relations avec les recherches qu'on a pu faire du côté... des sens sociaux, en fait, ça a été de comment on appréhende ce qui nous paraissait, enfin, ce qui était la folie de ce réel-là, quoi. Et du coup, on a été chercher dans des choses qui étaient beaucoup plus lointaines en apparence, c'est-à-dire la disparition. Bon, pour le coup, c'est quelque chose, l'absence de corps, la signification de la sépulture, forcément, c'est quelque chose qui est assez travaillé. Mais en contexte de guerre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le soldat inconnu pendant la Première Guerre mondiale? Comment tout ce processus a été fait pour finalement trouver une inscription publique à l'absence de corps? Comment parer à l'absence de corps, quoi? Donc on a été chercher des choses comme ça. Comment qualifier tout simplement ce à quoi on avait affaire en termes juridiques et comprendre pourquoi le système pouvait complètement générer cette disparition en termes juridiques et quelle est la difficulté qui était faite pour pouvoir tout simplement mettre en œuvre des procès, parce qu'il y en a extrêmement peu. Donc c'était des choses comme ça qui étaient plus périphériques qui nous aidait à préciser le regard et à comprendre le phénomène qu'on était en train de regarder, quoi. Mais donc, voilà.
Bon. Au Bar Floréal, c'est un dispositif un peu plus complexe que la seule présentation du film et des photos issues du film. Il y a eu aussi une installation au rez-de-chaussée. Vous voulez nous en parler?
Oui, parce que donc avant d'être un film, c'était un travail photographique et sonore. Et c'est parce que la question de la disparition est apparue que le film est né. On a recueilli pas mal de récits sur les disparitions, dont une partie sont dans les messagers, et beaucoup n'en sont pas. Donc nous, on se retrouve avec cette charge-là, et vraiment quelque chose qui est de l'ordre à déposer. Et donc, on a constitué une sorte de monument, toujours aussi avec l'esprit que aujourd'hui, en Europe, on n'en est pas encore à faire des monuments qui soient une reconnaissance de ça, et donc un monument pour nommer ces disparus et leur donner une certaine. Les ramener vers nous, en fait. Et. En fait, ce monument-là était constitué autour d'une phrase d'un de personnes qui avaient perdu des proches. Je ne saurais plus vous dire exactement la phrase. Et de photos de tombes, d'une part, et de plaques symboliques à la manière d'une plaque funéraire de tous les disparus qu'on avait pu recueillir, dont on avait pu recueillir l'histoire de manière plus ou moins fragmentaire. Donc ça a représenté à l'échelle de deux personnes ce que nous on avions pu recueillir pendant quelques années. Donc il y avait peut-être une quarantaine de disparus, ce qui est peu par rapport à ce qui se passe, ce qui était juste l'écho de nous, de notre échelle. Et donc chaque plaque reprenait une date, enfin les infos fragmentaires qui étaient disponibles, une date de naissance et de mort quand elle était connue et les circonstances de la mort. Et ensuite, les photos des cimetières, donc de tous les cimetières qu'on avait photographiés au Maroc, à Oujda, Rabat, en Mauritanie et également, où il y avait des exilés qui étaient enterrés et qui étaient souvent des tombes extrêmement précaires. On voyait aussi une autre disparition en train de se faire, c'est-à-dire que sur certaines tombes prises à deux moments différents, la première, il y a un nom, et puis un an après, il y a plus de nom, en fait. C'est des choses comme ça. Mais eux avaient été pris en charge, et à un moment donné, et il y avait eu une sépulture. Dans la première partie de notre travail, on regardait vraiment ces choses-là de manière... on y voyait le mépris, et en fait, quand on a mesuré tout ce que cela voulait dire... de donner une sépulture à ces morts, en fait c'était du plein, quoi. C'était plus du tout du vide, quand bien même on était dans des choses très fragiles. Voilà.
En tout cas, ce film messager a été présenté dans de nombreux festivals et récompensé. On peut imaginer qu'il serve de ressource pour justement des travaux de sciences humaines de nouveau. Et la boucle est dans l'autre sens maintenant. Oui. Ce sont, voilà, On va demander à Michel Agier de nous dire ce qu'il en pense au titre d'une conclusion de ce que vous avez entendu, là, de ces deux expériences. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Écoutez, là, je découvre. Donc moi, c'est vrai que je pensais qu'il y a toujours des choses qui sont à propos de la disparition qui est liée à des histoires de migration. La disparition des cultures, enfin, disparition, c'est un peu bateau, c'est-à-dire disparition des cultures, c'est disparition d'éléments de langage, d'éléments de compréhension, de certaines épistémologies, des mots qui se perdent voilà, dans des histoires de migration, et puis ce qui est effectivement tout à fait d'actualité, qui sont la disparition des vies et. Et la disparition des corps aussi, l'impossibilité de commémorer, de célébrer. Donc effectivement, il y a maintenant, récemment, des recherches qui sont engagées. On commence à avoir des dossiers de revues sur ce thème de la mort en migration. Dans le cadre du projet Babel, que je coordonne, il y a une partie qui est sur le thème des morts aux frontières.
Vous pouvez nous en parler de ce projet parce qu'il concourt aussi à diffuser autrement les
oui, voilà. Donc alors c'est un projet où il y a 30-35 chercheurs, étudiants-chercheurs en France, en Europe et un petit bout au Liban, enfin à Beyrouth, pour s'intéresser au rapport des migrants, des villes et des frontières. Donc c'est un peu les terrains, si on peut dire, sont sur tout ce qui fait frontière, donc en général les villes, mais aussi les parcours de migrants, avec donc des axes sur le thème des villes-refuges, le thème des villes-frontières et le thème des villes-carrefours, voilà. Et juste pour en parler un petit peu à propos de ce thème-là, de la mort en migration, il y a toute une partie effectivement de la recherche sur la Méditerranée, sur certaines îles et certaines villes de Méditerranée, que ce soit en Grèce, à Lampedusa, mais aussi à Calais, où il y a des tentatives de recension déjà du nombre de morts, de l'identité des personnes qui sont mortes. Ça, c'est un travail qui est assez long, de la reconstitution. Donc en Italie, il y a même des laboratoires si on peut dire, de sciences, comment on appelle ça, comme la médecine légale, enfin bon, pour essayer de reconstituer l'identité des personnes à partir d'éléments recueillis. En essayant de recouper des récits des gens qui étaient avec ceux qui sont morts et des éléments de vêtements. Enfin bon, voilà. Donc là, je pense c'est un travail immense, et en même temps, sur le plan anthropologique, c'est toute une nouvelle manière d'aborder une question qui est tellement classique en anthropologie, qui est l'anthropologie de la mort, et des rituels funéraires, et la place des funérailles dans la constitution des sociétés, de la communauté des vivants. Donc les vivants ont besoin de pouvoir commémorer d'une manière ou d'une autre la mort. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui effectivement occupe une place importante dans ce projet Babels. Sinon on a, l'intention effectivement est de faire cette anthropologie publique, donc de trouver aussi, de faire... tous les mois, des ateliers publics où on présente les recherches en cours et on les discute avec des gens, des associations, des administrations. Donc, c'est pas toujours évident de mettre des gens de l'OFPRA avec des gens de la CIMAD, par exemple, etc. Les ONG, de la presse, etc. Tous les gens qui ont quelque chose à dire, qui font quelque chose sur les terrains qui sont nos terrains de recherche. Et puis, le but aussi, anthropologie publique, c'est aussi très vite sortir de la documentation, faire connaître des résultats de recherche et des résultats des débats à propos de cette recherche. Donc là, il y a deux petits ouvrages qui vont... On a une série de... Voilà, on a un accord avec un tout petit éditeur qui s'appelle justement, allez savoir pourquoi, Le Passager Clandestin. Et avec ce petit éditeur, on a une série de 7 livres qui vont sortir, dont l'auteur est un collectif, Babels, et qui, les deux premiers seront l'un sur les morts aux frontières et l'autre sur les comment l'Europe fabrique des camps de Lesbos à Calais. Et ensuite la question du refuge et de l'accueil dans les capitales européennes, et puis les circulations des migrants depuis le Moyen-Orient jusqu'en Europe, une série de... Et dans ce cadre-là, il y a deux films qui vont se faire, voilà, pour faire le lien aussi avec ça. Les migrants palestiniens, si on peut dire, les fils de réfugiés et maintenant migrants comme tous les autres en Méditerranée, depuis le Liban jusqu'à l'Allemagne, et l'autre sur le mouvement de solidarité des habitants de Paris avec les migrants et les campements de migrants, donc à partir de la chapelle, enfin tout ce qu'il y a eu comme mouvement. Donc ça c'est aussi deux choses qui seront, là c'est plus des créations, donc, enfin des publications sous une autre forme.
Non, je rigole. C'était juste pour dire par rapport à justement tout ce travail-là qui est extrêmement important et qui crée la filiation, à mon sens, entre Michel Agita, Sadie Tiassine et Gérard Moiriel, que c'est quand même minoritaire aussi et qu'il y a aussi une volonté politique de progrès, d'émancipation sociale qui tient ça. Et pour dire que qu'est-ce que peut faire l'adaptation scénique, artistique, donc en passant par le sensible à partir d'une œuvre scientifique. Un autre exemple, c'est que suite à la Chacal, la fable de l'exil, la même année, j'ai monté les trois exils d'Algérie, les trois exils juifs d'Algérie, qui est devenu dans notre adaptation, les trois exils d'Algérie, une histoire judéo-berbère, toujours influencée par mon mentor, Tassadit, qui est un titre qu'a d'ailleurs repris Benjamin par la suite dans son travail, ce qui est assez intéressant de voir aussi l'interaction, j'allais dire, d'un nain comme moi scientifiquement, mais c'est assez... Du coup, il y a des choses qui peuvent bouger aussi, et ce livre-là était censuré en Algérie. C'est-à-dire que l'œuvre de Benjamin Stora est par endroits extrêmement publiée. Par contre, la question juive est encore tabou. En France, elle est aussi à d'autres endroits. Je ne sais pas pour donner des leçons, vous imaginez avec le discours que je peux porter. Mais en tout cas, ce livre-là qui était censuré en Algérie a été joué au théâtre régional de Béjaïa. Donc on voit bien comment, à cet endroit-là, il y a une possibilité, quand on me dit « mais le théâtre aujourd'hui ne peut plus rien », j'allais leur dire « mais si, ça peut faire ça ». Mais encore, il faut se donner les moyens d'une éducation populaire. Et si on ne met pas collectivement ensemble une réellement volonté, ça va être des événements qui vont être absolument tragiques, à mon sens, vu les ghettos qu'il y a aujourd'hui, vu le cloisonnement qui se passe. Donc pour nous, l'art doit être à la fois dans les théâtres, mais pas seulement, parce que sinon déjà, ça ne sert à rien d'attendre au bout d'un moment de rentrer dans le temple de la culture bourgeoise, c'est bien, mais il faut aussi, à notre sens, aller ailleurs. Donc on joue aussi dans les écoles, dans les centres sociaux, avec les associations. Je sais que c'est aussi un travail qui est mené par ces chercheurs-là. Et c'est que par avec la revue en immigration, et c'est que par cette synergie, à mon avis, qu'on arrivera à faire basculer aujourd'hui l'idéologie extrêmement conservatrice qui est en train de piétiner notre monde intellectuel.
En tout cas, merci à tous les quatre d'être venus témoigner de ces expériences. Et donc, ce sont des chantiers à venir. On espère bien avoir de nouvelles occasions de présenter les résultats de ces binômes ou trinômes qui font exploser les frontières disciplinaires. C'est aussi une réflexion sur ça, sur ces frontières disciplinaires. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bitexil continue. Une demi-heure, vous pouvez, par la conversation que nous avons menée, c'est bien une conversation, c'est de croisement d'intérêts, d'inquiétudes, de recherche également, d'écriture. Ce que j'esquissais tout à l'heure en vous parlant d'exil de masse contemporain et de la spécificité de ce à quoi nous assistons actuellement, un des traits de la spécificité de cette migration-là, à mon sens, c'est l'anonymat. L'anonymat complet. Les migrants, dit-on. Les migrants, pour ne pas dire les migrants qui arriveraient de, ou qui arriveraient de. Alors il y a les Syriens, cas à part parce qu'on connaît l'histoire, on connaît la généalogie, on connaît le contexte historique, et puis il y a le reste. Le reste. Alors le reste, c'est les migrants. Une des spécificités, encore une fois, de cet exil de masse contemporain, c'est qu'auparavant, les migrations qui, par exemple, arrivaient en France avaient un lieu d'origine. C'était les Arméniens en 1915, les Espagnols en 1939, les Boat People dans les années 70 qui venaient donc du Laos, du Cambodge, du Vietnam, etc. Et puis d'autres immigrations, bien sûr, les Polonais, les Italiens, bref, ils venaient de quelque part. Et d'une certaine manière, ils amenaient ce quelque part avec eux. Bien sûr, c'était souvent source de conflits, de rejets, mais ils l'amenaient ce quelque part, ils venaient de quelque part. Et d'une certaine manière, cette identité qui était une identité perçue négativement était malgré tout une identité. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les migrants. L'Érythrée, c'est où sur la carte? C'est à peu près cette question qu'on se pose. Afrique de l'Est, oui, vaguement, mais quelle langue parle-t-il, par exemple? Par exemple. Et donc je crois que cet anonymat de la migration contemporaine est une des raisons pour lesquelles les structures d'accueil, aussi bien les structures réelles, concrètes, que les structures mentales, discursives, imaginaires, sont bloquées. On ne sait pas qui accueillir. Alors bien sûr, on ne veut pas savoir, certes, mais c'est une autre question, mais la vérité est qu'on ne sait pas. Et je crois que la littérature a un rôle majeur à jouer, un rôle majeur à jouer pour comprendre le phénomène de l'exil d'une manière générale, mais aussi pour ceux qui nous occupent aujourd'hui à nous aider à comprendre qu'est-ce que veut dire le parcours exilique, qu'est-ce que veut dire partir de quelque part et arriver autre part, qu'est-ce que veut dire ce qui se passe entre le départ et l'arrivée. Pour les migrants dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas simple du tout. Ils sont partis, par exemple ceux qui sont partis d'Érythrée, ils ont traversé le Soudan, ils ont traversé la Libye, ils ont traversé l'Italie avant d'arriver ici. C'est-à-dire, ils sont en exil finalement de quel territoire? Et puis ce parcours-là a duré 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc cette mémoire, la dernière mémoire exilique, elle porte sur quoi? Bref, nous sommes devant des énigmes. Et ces énigmes, je crois, du plus profond de moi-même, que la littérature peut nous aider à, non pas les résoudre, mais au moins à cerner ce qui est en jeu. Au demeurant, le lien entre littérature et exil en Occident est un lien multiséculaire, depuis l'Ulysse d'Homère jusqu'à l'Ulysse de Joyce, depuis les métamorphoses d'Ovid jusqu'à la métamorphose de Kafka, on nous parle d'exil, et puis l'histoire aussi, l'histoire de France. Charles d'Orléans, Napoléon, etc. Et puis Victor Hugo, notre grand écrivain national qui a passé 20 ans, un quart de sa vie en exil. Un quart de sa vie en exil. ce qui n'a pas empêché d'être notre grand écrivain national. Et au demeurant, comme je le rappelle souvent à mes étudiants, si vous ouvrez Les Misérables, c'est un récit d'exil, puisque ça commence par le retour de Jean Valjean, qui était doublement exilé. En tant que bagnard, il était exilé social et géographique, puisque la Bagne, le Bagne, c'était très très loin, en Guyane. Donc quand il arrive, Les Misérables commence par le récit d'un retour d'exil, et d'ailleurs l'exil se prolonge. La petite Cosette qu'on envoie en exil chez les Thénardier, Gavroche qui habite à Paris comme un exilé, etc. etc. Bref, la littérature s'occupe d'exil, et aujourd'hui la littérature doit reprendre ce rôle qui est le sien de nous faire comprendre ce qui se passe. Et je remercie mes trois invités. Alors j'ai voulu justement un aéropage, un panel, comme on dit, assez divers, pour justement cerner cette question de plusieurs angles. Je présente mes trois invités rapidement. Ça, ce sont mes questions, ça viendra un peu plus tard. Mais ça viendra, ne vous en faites pas. Ana Paola Coutinho, à ma gauche, qui est professeure au département d'études portugaises et romanes de la faculté des lettres de l'université de Porto, où elle enseigne la littérature française et la littérature comparée. Depuis son doctorat de littérature comparée, elle travaille sur la littérature contemporaine, l'interculturalité et les représentations de l'expérience migratoire et exilique. Elle est coordinatrice scientifique de l'Institut de littérature comparée Margarida Losa. Elle est chercheure au CRIMIC de l'Université Paris 4 et participe aux travaux de ma chaire Exil et Migration. Elle est également vice-présidente de l'Alliance française de Porto, ce qui est quand même une marque d'ouverture et d'interculturalité précisément. Et parmi ses nombreuses... ah oui, puis aussi récipiendaire des palmes académiques. Ça, je l'ignorais tout à fait. Ça a un côté un peu comme ça, un peu... C'est honorifique, mais un côté comme ça très très curieux, je dirais. Et je suis très heureux que vous en êtes récipiendaire. Parmi ces nombreuses publications, je voudrais citer Passage et naufrage migrants, les fictions du Détroit en 2012, et plus récemment un essai sur Marguerite Duras. À ma droite, Patrick Bard, qui est photographe, où est sa bio ? Quelle organisation, la voici. En fait, je fais semblant d'être organisé, et je ne le suis pas du tout. Né en France, Patrick Bard est photojournaliste, romancier, voyageur et écrivain voyageur. Ce n'est pas forcément la même chose, et je ne veux pas qu'on réduise l'expérience du voyageur à celle de l'écrivain voyageur. Voyageur, c'est une expérience à part entière. Il a travaillé sur les déplacements, sur les frontières, sur l'Amérique du Sud, sur les peuples autochtones des Amériques. Il a été exposé dans son œuvre photographique au Centre Pompidou, à la Villette, au Mexique, en Angleterre et ailleurs. Beaucoup de titres à citer, je renvoie à son site patrickbard.com pour avoir la liste complète. Des ouvrages de photographie, des monographies et une douzaine de romans d'inspiration noire. Noir au double sens d'une certaine noirceur métaphysique, dirais-je, et du polar. Ljuba Jorgensen est... où est-elle ?
Elle est là.
Où est-elle, Ljuba ? Bon. Non, ça c'est les questions. Ah. Ljuba, de mémoire, Ljuba. Ljuba est née en Russie, elle a émigré en France... 15 ou 16 ans, elle est agrégée de russe, elle a eu un doctorat d'état ou un doctorat sur les littératures russes, j'imagine.
Sur
Chalamov. Éminente traductrice, elle a notamment redonné une nouvelle super version d'Oblomov. Et puis c'est une œuvre que l'on... voilà, bon, qu'importe. De mémoire toujours, ça prouve à quel point je vous suis attaché, puisque je parviens de mémoire. Une œuvre d'une douzaine d'ouvrages, à la fois des essais et des fictions. Très très bel essai sur l'expérience concentrationnaire. Et puis des fictions très très importantes à mon sens, pour ce qui nous concerne, la littérature exilique. Notamment un livre qui est épuisé, que moi j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, dont j'avais à l'époque rendu compte, Une autre vie, paru aux éditions Lieux communs. Je crois que non seulement le livre est épuisé, mais les éditions aussi en Israël. Et tout à fait récemment, Au lieu du péril, Yuba Jorgensen, qui est une, je dirais, un récit qui mêle justement la réflexion sur l'expérience exilique et puis un certain nombre d'anecdotes. Voilà, je voudrais poser une première question à Anna Paola, qui justement a... qui justement était coordinatrice d'un colloque qui s'est tenu tout à fait récemment, en novembre dernier, qui s'appelait « L'exilience au féminin dans le monde lusophone ». Et le pari était de dire, et c'est le pari qui revient, qui résonne avec ma question initiale, qui était de dire qui sont ces migrants, et par exemple, est-ce que l'identité féminine joue une part dans le parcours migratoire et dans cette identité exilique ? Question que je poserai ensuite à Lioba et à Patrick. Il y avait bien sûr une restriction, le monde lusophone, et puis d'autre part une restriction chronologique, 20e et 21e siècle. Est-ce que d'une part cette restriction était nécessaire pour poser la question de l'exil ? Est-ce qu'on ne pouvait pas poser la question de dire l'exil au féminin en littérature et qu'il fallait nécessairement restreindre le champ de la réflexion ? Et d'autre part, quelles ont été les conclusions de ce colloque qui s'est tenu et à Paris et à Porto et qui, il faut le signaler, mêlait les voix des chercheurs et les voix des auteurs elles-mêmes.
Merci, bonjour à tous. Pour ce qui est la délimitation du champ de la recherche, c'est toujours un grand dilemme, ou bien on élargit, ou bien on rétrécit, mais on a pensé que... On pourrait peut-être essayer ou parvenir à des résultats plus intéressants, plus cohérents, si on essayait de restreindre le champ d'analyse. Et parler ici de restrictions, c'est quand même un peu injuste, puisque le monde lusophone... ça veut dire le Portugal, le Brésil et les pays lusophones. Donc c'était déjà assez large. Justement, on a pensé que c'était important de faire parler une histoire de croisement qui a à voir avec l'immigration, l'exil, la colonisation, l'expansion, donc des termes et des réalités historiques, mais qui ont en commun, où l'on peut percevoir des expériences aussi en commun exiliques. Pourquoi les femmes ? Parce que déjà les collègues de Paris 4, du CRIMIC, elle travaille depuis quelques années cette question de l'écriture des femmes, donc on a voulu on a accepté de se mettre d'accord dans cette restriction sexuelle, mais c'est aussi à cause du fait que on s'aperçoit que les femmes, enfin on sait très bien que les femmes sont doublement, triplement exilé, normalement. Et ça, pas seulement dans le monde lusophone, mais dans les autres aires linguistiques et culturelles. Donc, c'était aussi la façon de donner la parole, de pouvoir faire de la recherche autour de parcours de femmes qui ont passé sous silence, même si on est en train de parler juste du 20e siècle et 21e siècle. Mais même si on parle de ces deux siècles, enfin, en siècle et quelques, on trouve déjà pas mal d'histoires de silence qui ont à voir avec les femmes. pour ce qui concerne l'articulation entre la dimension de la recherche et la dimension créative, pour nous, elle était aussi très, très importante, c'est-à-dire on a fait question d'inviter non seulement des spécialistes en littérature, en études culturelles, en musicologie aussi, puisqu'on a eu une table autour des femmes musiciennes dont on parle très pas souvent et qui elles aussi vivent ou ont vécu des expériences d'exil interne ou externe. À part les spécialistes, on a voulu terminer ce colloque de 4 jours, divisé entre Paris et Porto, avec des écrivaines. Et alors on a eu une table ronde avec des écrivaines de différentes générations, différentes nationalités aussi, puisqu'on avait une portugaise, une brésilienne, une écrivaine qui est née à Angola, et qui vit au Portugal, et une autre qui est née en Angola aussi, mais qui est venue très, très, très petite, habitée aussi au Portugal à cause de la guerre civile en Angola. Et ce qui était très intéressant, c'est peut-être une tendance qu'on pourra rencontrer dans d'autres aires linguistiques et culturelles, c'est que deux de ces écrivaines, elles sont... une d'elles n'a pas commencé... oui, les deux. Les deux ont commencé à écrire des romans, elles font leur parcours à partir du moment où elles ont voulu étudier la question de la migration. Par exemple, l'écrivaine brésilienne, elle avait comme sujet de recherche pour thèse doctorat au Brésil, elle voulait étudier le rapport entre le corps et la migration. Elle faisait son doctorat à Rio de Janeiro. Et en commençant ses recherches, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'écrire en termes fictionnels l'histoire de sa famille, qui est une histoire de juifs partis de Turquie. C'est son grand-père et sa grand-mère partis de Turquie qui sont allés au Brésil. Et puis ses parents, les parents de cette écrivaine qui s'appelle Tatiana Salem Levy, ses parents, eux, ils ont été exilés au Portugal pendant la dictature au Brésil, la dictature militaire de Chapulunas. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que pour aller à la rencontre de ce dont tu parlais tout à l'heure et au début de cet après-midi, la création littéraire, la parole littéraire, elle est née du besoin de parler d'une chose, donc comme si la recherche scientifique, la recherche intellectuelle ne suffisait pas et qu'elle avait besoin de la création. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quand même assez inédit, du moins dans le contexte universitaire portugais, j'imagine qu'en France aussi, c'est qu'on l'a laissé présenter comme thèse doctorat en roman. Un roman qu'elle commentait, le processus de création, elle a commenté, mais donc c'est un roman. Il s'appelle, si je traduis littéralement, je crois que, qu'il n'est pas traduit en français, « La clé de la maison ». Et l'autre jeune écrivaine, elle aussi, elle a fait une thèse doctorat en théorie de littérature. Mais ceci, elle a fait sa thèse doctorat avec travaillant Derrida, Blanchot, toutes les figures du dehors. Et après, elle a eu besoin d'écrire un roman. Un roman très intéressant qui est une réflexion, roman essai, et qui est une réflexion autour des cheveux bouclés d'une Africaine. Et donc cette trace qu'elle ne réussit pas à éliminer, et qui est toujours la marque de celle qui est dehors, dans un pays, enfin, tradition européenne de race non africaine comme le Portugal. Bon, je pourrais peut-être, mais
je crois que j'ai un peu répondu.
Tout à fait, mais non, on reviendra. C'est...